Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
On peut faire moins de bébés avec beaucoup plus d'amour.
Cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout, à tout moment.
Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana et sur son plaisir à elle qui est exclusivement donné par un homme.
Dans les périodes addicto porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je bande plus, je sais plus réagir normalement.
Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour info, avant de commencer, cet épisode s'adresse surtout aux futurs parents. Mais pour autant, même si je ne suis pas mère, par exemple, c'est un sujet qui me tient à cœur de savoir en fait comment ça se passe, la maternité, la grossesse, pour comprendre et puis faire preuve de bienveillance avec les personnes de mon entourage qui peuvent avoir cette expérience-là. Carole, pourquoi souhaitais-tu faire ce sujet de la maternité et de la grossesse ?
D'une part, parce que j'ai beaucoup de questions sur Instagram sur ce sujet-là. Parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé bénéficier quand moi-même j'étais enceinte et que ça n'existait pas encore vraiment. Et puis c'est surtout que pour être bien dans sa grossesse, il me semble qu'il faut être bien dans sa sexualité. Et que comme encore une fois, on n'en parle pas suffisamment, je pense à toutes ces jeunes femmes qui ont des douleurs de vaginisme, autres qui souhaitent avoir des enfants, qui ont cette appréhension d'accoucher. Et d'avoir une personne, une doula qui vient les accompagner tout le temps, me paraît tellement une chance. Et pour toute autre femme, c'est aussi une chance parce que 3/4 des gens disent qu'il faut qu'ils parlent à leur gynécologue ou à leur médecin de la sexualité. Ils ne le font pas. Il n'y en a qu'un tiers qui en parle. Et c'est quand même dommage parce que ça a toute une implication pendant la grossesse, mais aussi après. Une fois qu'il y a eu l'enfant qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe après dans le couple ?
Et justement, pour parler de tout cela, aujourd'hui, on reçoit donc Danielle Yukudogbe. Bienvenue.
Merci.
Alors, tu es connue sous le nom de Mamacista Doula sur Instagram. Et oui. Tu exerces un métier particulier, enfin spécial, je trouve. C'est que tu es une doula. Tu nous expliques ce métier, ce mot particulier ?
Alors, une doula, c'est une accompagnante à la naissance et en périnatalité. Donc c'est une figure féminine qui rappelle un peu les figures maternelles, qui accompagne du coup les couples pendant la grossesse, pendant l'accouchement si nécessaire, et après, en postpartum. Voilà. C'est un accompagnement non thérapeutique, c'est-à-dire qu'on ne prodigue aucun soin, aucun geste médical, mais ça vient en complément, donc sur tout ce qui est émotionnel, information, pratique. Et du coup, c'est une figure qui arrive sans jugement, sans attente particulière, juste pour accompagner et être là avec les couples tout au long de ce chemin qui peut être parfois sinueux, qui est la parentalité. Voilà.
Avec une grande écoute.
Parce que tout à fait.
Tu es là pour écouter tout. Exactement. Ce qui peut se passer sans...
Une écoute active et sans jugement. Voilà, ouais. C'est ce qui est très important. J'ai envie de dire, c'est ce qui fait le socle de notre activité. C'est qu'en tant que doula, tout ce que va traverser le couple dans ce monde périnatal peut être accueilli sans jugement et aussi légitimé. Voilà.
Et alors, comment est-ce que tu es devenue doula ? Quel est ton parcours ? Parce que c'est quand même un métier spécial, comme tu viens de dire, c'est un métier de l'écoute. Et c'est un vrai accompagnement dans une épreuve hyper importante de la vie. Comment ça t'est venu ?
J'ai envie de dire que j'ai toujours été doula, en fait, au plus profond de moi, sans forcément m'en rendre compte. J'ai toujours été déjà, même petite, la personne qui écoute, qui soutient, qui conseille parfois. Auparavant, j'étais dans un tout autre milieu, j'étais dans l'expertise en ressources humaines, donc rien à voir. Mais j'ai envie de dire que mes maternités, parce que j'ai 3 enfants, m'ont transformée et m'ont menée petit à petit justement à épouser pleinement ce pour quoi j'étais faite, être doula.
Voilà. C'est magnifique. Et alors, comment est-ce que concrètement, donc là, tu expliquais que tu étais vraiment dans ce rapport-là de l'écoute, mais comment est-ce que ça se manifeste aussi au travers du couple, et notamment, puisque c'est le sujet aussi qui nous intéresse, de la sexualité, puisqu'il doit y avoir des problématiques durant cette période-là. Est-ce que, par exemple, tu donnes des cours d'anatomie aussi aux parents ?
Alors, je ne vais pas donner des cours. Par contre, je vais informer. Premièrement, déjà, je vais accueillir, ouvrir une porte, en fait, pour pouvoir justement discuter ensemble de ce qu'ils peuvent traverser. Ce n'est pas une chose qui est fréquente, justement, quand un couple attend un bébé, de parler de sexualité. On ne le fait pas forcément avec son médecin, on ne le fait pas forcément avec sa sage-femme, bien que plus qu'avec le médecin. Mais justement, en fait, quand on arrive, quand une doula arrive, la porte est complètement ouverte, il n'y a pas de tabou. Si à un moment, il y a un besoin de parler de la sexualité, justement, la porte est complètement ouverte et il n'y aura pas de jugement, en fait. Et c'est le fait de légitimer, d'accueillir des sentiments ou ce qu'on traverse, des épisodes un peu plus compliqués, et de pouvoir en parler. Parce que être aux côtés du couple qui attend un bébé, c'est justement leur permettre en même temps de se dire les choses, parce qu'ils ne le font pas forcément entre eux. Et le fait de, moi, de leur poser des questions, de leur demander comment ça va, comment vous vivez les choses en ce moment, et le fait, par exemple, de le demander d'abord à la future maman, le papa écoute, « Ah oui, je ne savais pas que tu le vivais comme ça. » Ensuite, quand on pose la question au papa, et souvent, on n'ouvre pas de porte, justement, pour accueillir les émotions, les besoins du papa. La future maman découvre, en fait, ce que traverse son conjoint. Donc, c'est vraiment un moment... je suis vraiment à leur côté, en fait, pour leur permettre d'échanger, de se rendre compte de ce que l'autre traverse, de comment l'autre perçoit les choses, d'être informé aussi, parce que, mine de rien, l'information, c'est la clé pour vivre une maternité, une parentalité la plus sereine possible. Et du coup, ça ouvre le champ des possibles et ça ouvre la discussion également entre eux, même lorsque je ne suis pas là. Enfin, j'ai envie de dire surtout lorsque je ne suis pas là.
Oui, surtout tous ces changements de libido qui arrivent, ou d'appétit sexuel qui arrivent sur le premier trimestre, oui. Qui est pratiquement pas là. Le deuxième trimestre, les hormones arrivent et... Puis le troisième trimestre, qui est plutôt la fatigue. Oui. Et monsieur, dans tout ça, comment il se positionne en disant « Et là, où je dois être à ma place ?» Et comment ils trouvent leur place dans ces 9 mois, quoi.
Exactement. Parce que, déjà, ne serait-ce que le fait de donner de l'information, d'expliquer ce qui, physiologiquement, hormonalement, est en train de se jouer, ça apaise aussi, j'ai envie de dire, les choses. Le futur papa, par exemple, si sa conjointe a une baisse de libido, il ne va pas se dire c'est qu'elle ne me désire plus, c'est que je ne lui plais plus ou c'est qu'elle n'a plus envie de moi. Il peut comprendre qu'il y a d'autres choses qui se sont jouées. Et de ce fait-là, ça pose les choses un peu plus sereinement, je trouve.
Puis on a toujours encore cette non-information en se disant est-ce qu'à la pénétration, je touche le bébé ?
Oui, c'est vrai.
C'est encore une question que tu dois avoir tellement souvent.
Complètement. Et puis j'ai envie de dire, c'est un sujet, enfin c'est un mythe, mais qui perdure. C'est que même lorsqu'on dit non, il n'y a aucun risque, vous pouvez y aller, j'ai envie de dire que c'est même bénéfique, parce que si c'est bon pour la maman, c'est bon aussi pour le bébé. Il y a un bain hormonal qui est tout à fait favorable. On a du mal à l'intégrer, en fait. Il faut le temps de bien le digérer, voilà.
Oui, parce que si la maman est bien, parce qu'on est bien quand on est dans sa sexualité, quand on a son orgasme, évidemment, le bébé, il est aux anges aussi. Donc,
exactement.
Et ça, c'est le rentrer dans la tête des gens, c'est compliqué.
Oui. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire, en plus du mythe, justement, du fait de toucher le bébé, alors je rappelle, mine de rien, il y a le vagin d'abord, et ensuite il y a tout ce qui est col de l'utérus. Et le bébé, il se trouve dans l'utérus. Donc,
il y a toute la poche.
Exactement. Là. Donc, même si physiquement parlant, on peut être...
bien membré.
Exactement. Il n'y a aucun risque, voilà. Donc, et puis, hormonalement parlant, il y a des choses qui se jouent aussi. Une femme qui prend du plaisir, il va y avoir des hormones, de l'ocytocine, de l'endorphine. Du coup, une détente pour la maman. Et j'ai envie de dire, des bénéfices pour le bébé. Puisque le bébé ressent à sa façon ce que sa mère vit. Voilà.
Et comment est-ce qu'on réussit alors à briser cet énorme tabou ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que je me dis, voilà, moi qui ne suis même pas mère, j'ai ces mêmes interrogations, hein, honnêtement. Et pourtant, j'étudie, je travaille sur ce sujet de la sexualité. Comment on fait ? Est-ce que c'est de la prévention ? Est-ce que c'est des choses dont on devrait parler, même quand voilà, on a 18 ans et qu'on n'a pas forcément le désir d'enfant à ce moment-là ? Comment est-ce qu'on pourrait faire, en fait ?
J'ai envie de dire, d'abord, la clé, c'est vraiment l'information sur l'anatomie. Aujourd'hui, même si parler de la sexualité est plus libéré, il y a toujours, mine de rien, un manque d'information, une méconnaissance des femmes de leur propre corps, déjà. Donc, redonner les clés de l'information aux femmes et à leurs conjoints, c'est permettre justement de briser un peu ces tabous-là. Expliquer comment est fait le corps de la femme et comment il va évoluer tout au long de la grossesse. Montrer où se situe le bébé. Alors ça peut être sur des planches anatomiques, hein, des simples dessins, des fois ne serait-ce que pour briser ces tabous-là. Et permettre aussi à chaque membre du couple d'exprimer ses ressentis. C'est des portes qu'on ne s'ouvre pas forcément en tant que couple. Et il y a mine de rien, à partir du moment où la femme est enceinte, il y a comme un mythe de la femme devient mère. Et en fait, petit à petit, s'éteint tout ce qui est femme désirante. Et de ce fait-là, le fait de remettre au centre les émotions, les besoins de chacun, c'est s'ouvrir justement des autres opportunités que cette place qu'on s'attribue.
Surtout quand déjà la femme n'aime pas son corps. Et que du coup, le corps change pendant cette grossesse, on a plus de poitrine, on prend du poids. Et c'est aussi comment ça peut être parlé dans le couple, parce que pour autant, pour l'homme, la femme est toujours désirable. Pour certains hommes, elle est encore plus désirable, le fait d'avoir des rondeurs. Et c'est la femme, quelle est la perception de son corps, qui aussi amène aussi dans la sexualité en disant « Non, mais t'as vu à quoi je ressemble, il ne peut plus avoir envie de moi. » Et ce qui est plutôt faux.
Exactement. C'est vrai que ça a une place prépondérante, j'ai envie de dire, parce que la perception que la femme va avoir de son corps, son rapport à son propre corps, va avoir un impact vraiment important sur sa sexualité. Et j'ai envie de dire aussi sur son accouchement, après. Parce que l'accouchement, ça il faut le redire, l'accouchement, ça fait partie de la sexualité. Pourquoi est-ce qu'on dit que ça en fait partie ? Parce que déjà, ça touche à tout ce qui est notre matrice. Et puis, ça va avoir un impact sur la sexualité d'après. Donc déjà, la sexualité d'avant l'accouchement va avoir un impact sur l'accouchement. Et ensuite, l'accouchement va avoir un impact sur la sexualité. C'est-à-dire une femme qui déjà était dans les tabous vis-à-vis de sa sexualité va avoir, je ne vais pas dire plus de difficultés, mais presque, par rapport à son accouchement. Il est dit d'ailleurs que les femmes pluri-orgasmiques durant leur grossesse ont un travail plus rapide et plus simple. Donc, c'est vraiment important de se réapproprier cet espace, cette notion de sexualité, et de ne pas l'écarter juste en se disant c'est la grossesse, là on met de côté. Non, ça en fait partie. En plus, l'expérience d'accouchement, si elle est traumatique, va avoir un impact vraiment dévastateur sur la sexualité d'après. Une femme qui vit des violences obstétricales ou gynécologiques, ou qui a vécu une épisiotomie, que ça a été douloureux, la reprise de sa vie sexuelle va être plus compliquée.
Oui, moi j'en ai régulièrement au cabinet des femmes après 6 mois qui se disent... J'y arrive toujours pas, quoi. Même si chacune met le temps nécessaire pour se remettre après un accouchement. Mais il y a vraiment des femmes, et ça s'explique de comment s'est passée la grossesse et comment c'était déjà la sexualité avant.
Exactement. Mmh. Et les expériences aussi sexuelles qu'on a eues auparavant. Des femmes qui ont vécu des événements traumatiques hein, dans leur vie de femme, ça peut ressurgir pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Alors que c'était, j'ai envie de dire, en latence pendant tout ce moment, pendant toute leur vie de couple. Et au moment de l'accouchement, ça ressurgit. Et il peut y avoir du vaginisme, de la tocophobie. Ça a un impact important.
Voilà. Tu peux préciser ce que c'est la tocophobie ?
Alors la tocophobie, c'est une peur vraiment, j'ai envie de dire, viscérale vis-à-vis de la grossesse et ou de l'accouchement. Donc c'est difficilement contrôlable, j'ai envie de dire que ce n'est pas contrôlable d'ailleurs. Et c'est vraiment avoir une peur viscérale d'accoucher.
Et justement, sur l'après-accouchement, sur le retour chez soi, sur le postpartum, on en parle enfin et beaucoup aujourd'hui. Ilyana Wiseman a d'ailleurs sorti son livre récemment, Mon postpartum. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, sur le « j'accouche et puis c'est fini, je reprends ma vie de tous les jours ». Comment est-ce qu'on a pu, dans notre société, autant dissocier un événement aussi important de notre vie? On donne la vie quand même, ouais. Et de se dire bah non, mais maintenant je rentre chez moi, je ferme la porte de la maternité et puis c'est fini quoi.
J'ai envie de dire que plusieurs choses ont amené à ça. Premièrement, tout ce qui est standardisation de la grossesse et de la naissance. Premièrement, quand je dis standardisation, c'est le fait que il y a des protocoles qu'on applique à toutes les femmes, sauf que on n'est pas toutes pareilles, chacune a son histoire, chacune a ses propres expériences, chacune a son propre rapport à la maternité, ne serait-ce que déjà par sa lignée maternelle et par son propre vécu. Et on traverse chacune des événements de vie qui sont différents. Donc ça déjà, le fait de standardiser, en fait, c'est comme si on donnait un protocole à la femme. Voilà, ça va se passer comme ça. D'ailleurs, quand elle est à la maternité, on lui donne d'emblée sa prescription pour tout ce qui est pilule ou stérilet. Voilà, on lui donne d'emblée une ordonnance. C'est un peu comme si on lui soumettait tout doucement. Bon, maintenant, il va falloir reprendre une vie sexuelle. Donc, comment on fait? Et là, on parle tout de suite de comment ne pas retomber enceinte d'emblée. Ensuite, je pense qu'il y a un tabou sur le postpartum. Un tabou dans le sens où on ne prépare pas les parents à l'après. On leur explique pas que après, il y a la fatigue, il y a aussi la solitude parfois, un peu d'isolement, parce que mine de rien, tout le monde reprend sa vie. Au bout de quelques jours, le papa, il va retourner au boulot. Et on demande à la jeune maman, en fait, d'être en pleine forme, d'assumer son nouveau bébé, son nouveau corps, ses propres douleurs, son récit d'accouchement, et en même temps, la vie de la maison.
C'est pas possible.
Mais non, non.
Tout ça avec le sourire.
Ouais. Voilà, c'est ça, sans se plaindre. Parce qu'elle a eu un bébé, donc il faut être heureuse.
On est heureuse.
Exactement.
Hein, parce qu'on vient d'accoucher, on est heureuse, on a un bébé, voilà. Tout va bien.
C'est oui, il y a ça, il y a toute cette aussi... Il y a des femmes, justement, qui tombent dans des déprimes ou des dépressions.
Bien sûr.
De la peur de perdre son enfant, aussi, juste après avoir accouché. Et puis tout simplement de se dire, qu'est-ce que je suis moi, maintenant qu'on me dit que je suis qu'une mère, du coup je suis...
Être assignée à un rôle et y être complètement enfermée. Mmh. Et mine de rien, pendant toute la période de grossesse, tout le monde choisit la maman. Comment tu vas? Oh, tu es belle. Comment ton bébé? Tu le sens, etc. Mm. Une fois qu'elle est accouchée, on lui pose plus de questions. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a eu le temps de se laver les cheveux? Peu importe. Mais c'est plein de choses. En fait, la maman, elle est écartée entre guillemets de la vie sociale, mais on lui demande en même temps d'être productive. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une place qui est... Il faut trouver un équilibre, mais il n'est pas simple à trouver.
Bien sûr.
Mais il n'a jamais été simple. Hein. C'est après, que ce soit maintenant, il y a 10 ans,
bien
il y a 15
sûr.
Ans, il y a 30 ans, il y a toujours cette, ce qu'on appelait la petite déprime.
Oui. Alors oui, il peut y avoir petite déprime tout de suite après avoir accouché, ce qui peut être à peu près normal, hormonalement parlant. Par contre, là où il faudrait s'inquiéter, et dans ce cas-là consulter, c'est si ça perdure dans le temps. Voilà.
Personne n'ose, personne n'en parle. Est-ce que c'est normal, ou pas? Ou pourquoi ça serait normal? Et comment on se donne la possibilité de dire avec qui je peux aller en parler. Aujourd'hui, avec qui je peux aller en parler ? Bon, c'est pas trop, quoi, parce que... Ben non, je vais pas aller voir un psy, je vais pas voir un thérapeute, je vais pas
voir... Puis quand on se dirige vers notre propre mère, il y a aussi... Enfin, il y a tellement déjà un tabou d'avant.
C'est ça.
Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que... Je parle pas forcément de ma propre mère, mais de manière générale, on m'a toujours dit « Oh, ben, un accouchement, ça se passe super bien, c'est, tout va bien, c'est tranquille. »
C'est aujourd'hui... des choses qu'on tait.
Voilà, c'est ça.
On les tait et en même temps, aller voir sa propre mère en lui disant « Mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu m'as pas dit. » C'est mine de rien... Comme si on la défiait un peu.
Ouais. Et puis c'est hyper dur aussi, parce que si la personne ne l'a pas verbalisé,
c'est ça.
C'est se replonger dans des souffrances. Oui. Ouais.
Puis si on lui fait des reproches.
Ouais.
Mais c'est-à-dire
exactement.
Que notre mère était une femme, elle l'a vécue d'une certaine manière, et nous, on l'a encore vécue d'une autre manière. Et c'est ça qui est important, c'est comment moi, je peux m'exprimer à ma manière avec quelqu'un, j'ai envie de dire, de neutre, pour écouter... Et trouver des solutions avec, et voir ce qui peut être mis en place.
Exactement. Et puis surtout, une solution n'est pas bonne pour tout le monde, en fait. Chaque couple a ses propres solutions. Et en fait, moi, mon rôle en tant que doula, ce n'est pas de donner des solutions. C'est de permettre aux parents de trouver les leurs, celles qui leur conviennent. Voilà.
Oui, puisque souvent on dit, alors, pour après reprendre la sexualité après accoucher, ben c'est 6 mois, d'autres vont dire c'est 2 mois, donc je veux dire c'est 1 mois.
C'est propre à chaque couple, exactement. Exactement.
Danielle, tu es très engagée, tu écris beaucoup d'articles, tu partages aussi beaucoup de choses sur ton compte Instagram,
oui.
Sur des tabous, justement, sur la maternité et la grossesse notamment. C'était indissociable pour toi de ton métier de procéder comme ça ?
Oui, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et une fois qu'on les traverse, on pense qu'on n'est pas normal. Et je pense qu'il est important de briser ce tabou, justement pour légitimer tout ce qu'on traverse. Non, une maman, elle n'est pas forcément méga épanouie dès qu'elle vient d'accoucher. Une femme enceinte n'est pas forcément épanouie durant sa grossesse. Elle n'est pas obligée de se trouver magnifique, etc., avec ses rondeurs. Tout comme elle peut se trouver magnifique. Voilà. Donc, je pense que chaque perception des choses a sa place, est légitime. Et le fait d'en parler, ça permet à des personnes de ne pas se sentir moins bien.
Qu'est-ce qui revient le plus souvent, de ton point de vue, dans les couples ?
Je pense que c'est l'équilibre entre vie de femme et vie de mère. C'est une chose que j'entends beaucoup. Alors l'équilibre, il a plusieurs, j'ai envie de dire, plusieurs facettes. Il va y avoir la sexualité. Mais il va aussi y avoir la place de femme, en fait, dans mon foyer. Est-ce que je suis juste assignée à m'occuper de mon bébé, m'occuper de ma maison, etc. Surtout pendant cette période de congé maternité. Ou est-ce que dans ce monde aussi, j'existe ? Parce que mine de rien, le monde actuel occidental va très vite. On est dans une culture un peu, j'ai envie de dire, de rendement. Et... La grossesse, c'est justement le moment où on peut ralentir, si on se l'autorise. Mais on peut ralentir. Sauf qu'au moment où on ralentit, on est un peu mise de côté. Et de ce fait-là, beaucoup de femmes, en fait, à ce moment-là, d'ailleurs, il y a beaucoup de reconversions professionnelles autour de tout ce qui est congé maternité. Parce que c'est le moment où on se demande pourquoi suis-je faite, en fait. Est-ce que le monde d'avant, auquel j'appartenais, me correspond toujours ?
J'aimerais bien que tu nous précises aussi le fait que de verbaliser aux mamans l'importance d'être dans leur grossesse, de se reposer. Maintenant, on voit ces jeunes mamans qui sont dans l'action, qu'on travaille jusqu'au presque au dernier jour, parce qu'on ne veut pas être seule, parce qu'on ne veut pas quitter son travail, parce qu'on a de l'ambition. Et tout ça, c'est honorable, mais à un moment donné, c'est quoi les impacts pour le bébé, nous, en tant que femmes, quand on va accoucher et après ? Parce qu'après, bon, on reste encore un peu à la maison, sauf cas exceptionnel de femme indépendante. Mais tout ça, ça a un impact sur notre corps et sur l'enfant.
Oui, et aussi, j'ai envie de dire, sur le lien mère-bébé. En fait, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans un monde où tout va vite. Et on demande, il y a la culture du résultat. Et lorsque la femme est active, jusqu'à son congé maternité, déjà, elle tait entre guillemets, pour certaines, ses douleurs, pour aller jusqu'au bout et avoir son congé maternité. C'est-à-dire, elle se dit, mais si je le prends trop tôt, après je vais devoir retourner plus tôt. Elle est encore enceinte, elle n'a pas encore accouché, qu'il faut déjà qu'elle pense où ira mon bébé lorsque j'aurai accouché et lorsque mon congé mater sera fini. Donc, on lui demande déjà de se projeter, alors que elle est encore en train de tisser la vie dans son ventre. Donc forcément, ça n'aide pas à s'ancrer dans l'instant présent et à profiter de justement ce qui se tisse en elle. Et mine de rien, la grossesse, c'est un moment aussi qui est propice à l'introspection, mais chose qui n'est pas facile pour tout le monde. On n'est pas forcément habitué à avoir un regard sur soi-même. Et certaines femmes, ça va être difficile pour elles, en fait, de se poser, d'analyser la situation dans laquelle elles sont, d'analyser leurs émotions, est-ce qu'elles se sentent à l'aise avec ou pas, le rapport au corps aussi. Mine de rien, ça renvoie à plein de choses, à notre relation avec notre mère et notre lignée maternelle, à notre relation au monde, à notre relation, à notre vie sexuelle, même passée. Et de ce fait-là, ça remue. Et tout ce qui remue, mine de rien, on essaye beaucoup de l'occulter aujourd'hui.
Un peu trop.
Oui.
Merci beaucoup, Danielle, d'être venue partager ce moment d'intimité et de bienveillance, surtout de bienveillance.
Merci à
c'est
vous.
C'est agréable de voir que la révolution est en marche et que des personnes comme toi existent pour accompagner chacun dans ce chemin si particulier qu'est la grossesse et la maternité. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours, envoyer des DM à Danielle et à nous sur Vibrante. Et puis, je vous dis à très bientôt au prochain épisode.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Ground Control en partenariat avec le magazine Cosette.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.